Parlons de nos syrophéniciens. Ah, c'est un grand mot, syrophénicien. Déjà, on se dit, oh, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans une introduction à une étude biblique. C'est un grand mot, mais vous inquiétez pas, c'est une introduction, d'accord ? Je suis convaincue que pour vraiment entrer dans la parole pleinement, il faut avoir des clés et des outils pour vraiment bien la comprendre dans sa globalité. Alors bien sûr, vous avez tous le droit ici de lire la parole sans être des hauts théologiens, on est bien d'accord, et que le Seigneur nous parle à chacun de manière différente. Maintenant, est-ce que j'ai envie de vous donner ce que moi j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est des outils d'études bibliques qui nous permet d'aller plus loin et dans une plus grande profondeur de relation avec le Seigneur. Ok ? Et j'ai pris cette étude du texte de la Syrophénicienne. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va directement aller dans la parole. Ok ? C'est parti. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fillette avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Là, c'est le passage dans Marc. On retrouve exactement la même histoire dans Matthieu. D'accord ? Donc ça, c'est important quand on fait une étude biblique, d'aller voir déjà les concordances, comme on dit. Les concordances, c'est l'histoire d'un même texte, mais sous un autre angle, un autre point de vue. Là, j'ai pris celui de Marc, mais à un moment donné, je vais faire des parallèles avec Matthieu. Parce qu'on ne peut bien comprendre qu'un texte que parfois lorsqu'on regarde un autre point de vue. Vous savez, quand j'ai commencé mes études bibliques, le professeur m'a dit, voilà, on imagine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Voilà, ok, bien au milieu, à la flèche, voilà. Tu es Jésus. Voilà. Est-ce que tu peux venir, Didier, s'il te plaît ? Voilà. Ici, tu te mets à côté, tu le regardes. Tu le regardes, voilà. Et puis, moi, je suis là, ok ? On ne voit pas la même chose. Oh, tu peux rester comme ça, si tu veux. On ne voit pas la même chose de Jésus. Vous comprenez ? Et dans l'évangile de Matthieu, on a la même histoire. Mais Matthieu l'a vécu peut-être d'une manière différente. Cela dit, ça ne change pas au fond du message. Mais du coup, il peut avoir des subtilités, c'est-à-dire ce que moi je vois de Jésus, Didier voit autre chose et ne voit pas ce que moi je vois. Moi je vois quelque chose, Didier voit quelque chose d'autre. Et les deux réunis ensemble, on peut avoir la vérité. D'accord ? Et on peut avoir une globalité de l'ensemble du texte que si on réunit l'ensemble des textes ensemble. Ça s'appelle la concordance. Merci. Il existe des textes comme ça, des Bibles, on appelle ça les concordances. Un premier outil que je vous donne, il suffit d'aller chercher, ça s'appelle la concordance. Ok. La concordance, voilà, donc c'est tu trouveras. Et donc, dans la concordance, on va aller voir un peu ce qui se passe. Mais, donc, premier outil. Deuxième outil, Je ne vais pas vous donner tous les outils, parce que là, vous allez être gavés. Mais je vais vous donner quelques outils qui sont très pertinents, je trouve, pour ce texte-là. Il faut regarder le contexte. Il n'y a pas de texte sans contexte. Et nous, si nous sortons le texte de son contexte, à ce moment-là, nous pouvons dériver. Et c'est là où ce n'est pas bon. Quel est le contexte de ce texte ? Pour avoir le contexte, il faut regarder là où ça se passe, le où, le quand. D'accord ? Le où et le quand. Le où. On est du côté de Tyr et Sidon. Si on regarde aujourd'hui Tyr et Sidon, Tyr qui existe toujours aujourd'hui, Sidon, je ne sais pas, je vous avoue, je n'ai pas été voir. Mais Tyr existe toujours, c'est dans le Liban. Aujourd'hui, c'est le Liban. OK ? Donc, on est en terre de Tyr et Sidon, Sidon qu'on appelle la Phénicie. Vas-y, tu peux cliquer. Vas-y, la zone géographique, Tyr et Sidon. Voilà. Alors, je peux avoir le petit machin. Si tu n'y es pas là, c'est tout. Oh, c'est tout. Alors, regardez tout en haut. Il est surligné en rose. Vous voyez ? Voilà. Tyr et Sidon. C'est important de connaître la géographie du temps de Jésus. Sinon, on loupe quelque chose. D'accord ? Tyr et Sidon, c'est la Phénicie, tout en haut. En dessous de la Phénicie, on a quoi ? On a la Galilée. Ah, merci. C'est gentil. Il faut appuyer sur ça. Voilà. Donc ici, on a la Phénicie, avec Tyr et Sidon. C'est très haut, hein ? C'est très haut. En dessous, on a la Galilée avec Nazareth qui est ici. Mais donc Nazareth, c'est quand même assez éloigné. Hein. Il faut faire un bon bout de chemin et il y a notamment Capharnaüm qui est un lieu très important pour Jésus parce que c'est là où Jésus, quelque part, a pris son indépendance. Ça veut dire quoi ? Vous savez qu'à 18 ans, on part faire ses études supérieures et on quitte le nid. Hein. D'accord. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Et à un moment donné, il a vécu à Capharnaüm. C'est-à-dire qu'il est parti de Nazareth pour vivre à Capharnaüm, comme un grand. Voilà. Et donc, là, Capharnaüm, c'est pas très très loin. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Surtout que les voitures, ça n'existait pas en ce temps-là. En dessous, on a la Samarie. Ah, les Samaritains et la Samaritaine. Les faux juifs, les traîtres. Hein, d'accord. Et ici, enfin, on a la Judée. The cherries on the cake. Les meilleurs juifs au monde. Hein, ceux qui ont la vérité. Avec Jérusalem. Et notamment Bethléem. Bethléem n'est pas en Galilée, hein. Bethléem est bien en Judée. Bien. Pourquoi c'est important de voir ça ? Parce que qu'est-ce que nous dit l'archéologie ? Troisième outil. L'archéologie, la science. Okay ? C'est-à-dire des faits concrets. On peut s'appuyer sur l'histoire et sur les faits concrets. Qu'est-ce que nous dit l'histoire et les faits concrets en archéologie ? C'est que la Phénicie, et notamment à Tyr et Sidon, c'est une terre païenne. Païenne. Mais ça veut dire quoi exactement ? Alors vas-y, appuie. Voilà, syro-phénicienne. Donc déjà, syro, ça veut dire de Syrie, de cette région-là, okay, qu'on appelait déjà Syrie. La Syrie existe toujours aujourd'hui. Mais peut-être que les frontières ont évolué depuis le temps. Et phénicienne, c'est-à-dire non-juive, païenne, certainement d'origine polythéiste. Il faut bien comprendre une chose très importante, c'est que cette femme qui est en face de Jésus est païenne, avec certainement son culte. Tous les dimanches, elle va au temple, elle sacrifie des bêtes pour Baal, pour Astarté, pour ceci, pour cela. Elle a son culte. Ça, c'est très important à comprendre pour comprendre ce qui va se passer et ce qu'il va dire. Mais alors, moi, j'ai envie de poser une question. Donc, c'est rempli de païens, c'est rempli de culte à Astarté, c'est rempli de trucs comme ça que Dieu déteste. Mais pourquoi il va là-bas ? Pourquoi Jésus part en Phénicie ? C'est une question très importante et qui marque le départ de ce texte. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Repars en arrière, s'il te plaît. OK. Qu'est-ce qu'on lit ? En tout premier, on marque « Jésus partit de là ». De là ? Ah bon ? De où ? Il part de où ? Exactement. Oh, merci. C'est ça. Du merci d'avant. Donc, du coup, du verset d'avant, ça veut dire que, quatrième outil, il faut forcément un texte s'inscrit toujours dans un texte avant et dans un texte après. Donc, il faut aller voir ce qui se passe avant et il faut aller voir ce qui se passe après. On va aller voir. OK. Tuk-tuk. Donc, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et Sidon. Et c'est là où on va aller voir ce qui est écrit en Matthieu. Et vous allez voir. C'est intéressant. Matthieu, lui, il dit « Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. » Le mot « retirer », d'accord ?« Retirer ». Je ne sais pas vous, si vous voulez vous retirer votre maison ou si vous voulez vous retirer de votre contexte là où vous êtes, c'est qu'il y a quelque chose, vous avez envie de souffler. Moi, quand je me retire de ma maison, c'est qu'à un moment donné, mes enfants, ils me saoulent et j'ai juste besoin de souffler. D'accord ? Et après, on a la suite. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Désirant que personne ne le sache, ça veut dire que Jésus voulait la paix. Il est allé dans un territoire païen pour fuir une chose qu'il y avait dans son propre pays. Alors, du coup, je vais vous dire, je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous dire ce qui est encadré. Juste avant ce texte-là, que ce soit dans Marc ou dans Matthieu, dans les deux, c'est la même chose, donc ça veut dire que c'est important. C'est le moment où les pharisiens viennent embêter Jésus. Les pharisiens, donc religieux, viennent voir Jésus et leur dit, il lui dit, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains et ne font pas les ablutions que la tradition demande? Et c'est vrai, hein, on faut le dire, du temps de Jésus, ben voilà, il y avait des ablutions. Et pourquoi ils ne respectent pas cette loi? Et pourquoi toi, tu t'autorises à leur dire ben non, tu ne respectes pas ça? Ok, il leur explique. Il leur explique que l'impureté ne vient pas de ce qu'il y a dans nos mains ou de ce qui rentre dans notre bouche et qui sort par où vous savez, mais ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, l'impureté vient du cœur. Et du coup, les pharisiens ne sont absolument pas d'accord avec ça. Et ça crée vraiment un gros conflit entre les pharisiens et Jésus. Et Jésus a besoin de souffler. Il a besoin de prendre l'air. Donc, il va. Le truc, c'est qu'il cherchait du repos. Mais est-ce qu'il l'a trouvé ? Non. Parce qu'en fait, pourquoi il est allé en terre païenne ? Parce qu'il espérait tout simplement que sa réputation soit moins grande. Et que, ben, du coup, c'est comme les grandes stars aujourd'hui des États-Unis. Bon, ben, peut-être, ils vont aller, je sais pas moi, en Serbie, en se disant, bon, je pourrais me balader tranquillement dans la rue, on va pas m'embêter. Ben, c'est pareil, là, Jésus dit, ben, je vais aller en Phénicie, je vais être tranquille, quoi. Eh ben, non, parce que sa réputation, eh ben, commence vraiment à être connue. Et du coup, bingo, on l'a reconnu. Et du coup, on vient le voir. Alors maintenant, on va passer du coup dans le fond. Là, on a vu le contexte. Vous voyez comment le contexte est important ? En étudiant un contexte, ça nous donne plein de palettes et des couleurs du texte qu'on ne voit pas autrement. Alors, repart en avant. Tuc, tuc, tuc. Voilà, tuc. Et tuc. Merci. Le fond de l'histoire. Alors, on peut vraiment étudier beaucoup de choses dans ce texte, mais moi, je vais me concentrer sur une question. Parce que c'est, je pense, ce qui est le plus important, c'est que dans ce texte, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de protagonistes. La question, c'est alors, qui touche cette histoire ? Qui ? Alors, il y a tout d'abord, il y a Jésus et ses disciples. Dans le texte, il n'y a nulle mention des disciples. Hein. Mais pourquoi je pense qu'il y a ses disciples ? Parce que si on étudie l'ensemble de Marc, à chaque fois, il est marqué « Jésus parti », « Jésus alla », « Jésus... » Mais Jésus n'était pas tout seul. Il y avait ses disciples qui étaient là. OK ? Donc, les disciples étaient là et ils voyaient seulement. C'est tout. Ils étaient juste témoins. Mais il n'y a pas eu de réaction par rapport à ce qui s'est passé. Donc, Jésus et les disciples. Lesquels de disciples ? Franchement, je ne sais pas. Et si quelqu'un vous dit qui c'est, eh ben, il faut qu'il m'explique. il y a ces fameux enfants. Jésus nous parle d'enfants. Ok, mais c'est qui les enfants? Après, il y a la Syrophénicienne et sa fille. Ok, donc c'est important de comprendre vraiment les trois personnes là. Ça va, vous me suivez? C'est pas trop lourd? Non? Amandine, ça va? Ok, d'accord. Alors, peut-être que c'est pas la première fois que vous lisez ce texte, rassurez-moi. Vous le connaissez, ce texte. Bon, ok. En fonction de nos diverses sensibilités, on peut réagir différemment. On peut dire, oh Jésus, moi je comprends pas pourquoi Jésus réagit comme ça. Moi, c'est pas le Jésus que je connais. Moi, le Jésus que je connais, il est ouvert, hein. Et puis, il est gentil. Et puis, non, là, je comprends pas. Je bute, j'y arrive pas. Et peut-être que vous, votre sensibilité, elle est autre. Et vous vous dites, non, mais elle est pas gonflée, celle-là. Ah bah, heureusement qu'il l'envoie bouler. Franchement. Ou peut-être que tout simplement, vous vous dites, je comprends rien à ce texte. Longtemps, moi j'étais dans la deuxième position, je comprends rien à ce texte. Parce que je sais bien que Jésus, il est clair et il est la vérité. Donc parfois il est tranché, je sais bien. Mais là je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi... Elle s'est pris une porte dans les dents quand même. Hein. Je ne sais pas si vous, vous accepteriez qu'on vous dise que vous êtes un petit chien. Non, il n'y a personne en fait qui aime qu'on entendre dire bah, « tu sais, tu es un petit chien ». Il faut quand même l'encaisser. Bon, on me dit ça. Quelle est ma première réaction? Ok. Moi, je t'aime pas, toi. Ouais, ok. Peut-être la première réaction. Peut-être après, on réfléchit, on se pose, on se dit, bon, pourquoi il a dit ça? Bon, voilà. Alors, on va répondre à cette question. C'est à ça que servent les études bibliques. C'est à comprendre vraiment pourquoi Jésus dit ça. Alors, du coup, là, on ne va plus trop regarder ça. Aujourd'hui, je n'ai pas fait un grand PowerPoint, parce que je voulais avoir vos yeux dans mes yeux. On va revenir en arrière. Reviens au texte. Il dit, donc la Syrophénicienne lui demande d'aller sauver sa fille et de chasser le démon. Qu'est-ce qu'il répond? Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cinquième ou sixième outil, je ne sais plus, c'est le quoi. On parle de quoi? Là, on parle du pain. Le pain. Et de qui? Il y a l'histoire des enfants et l'histoire des petits chiens. Alors, je vais vous... Peut-être vous avez déjà la réponse. Là, je vais poser la question. À votre avis, qui sont les enfants? Bah oui, c'est ça. Les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ce sont les Juifs. Donc quand Jésus il dit « il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, laisse d'abord les enfants se rassasier », il est en train de dire, et dans Matthieu, il va plus loin, dans Matthieu, il dit « je suis venu d'abord pour les enfants d'Israël ». Dieu nous appelle à comprendre pourquoi Israël est aussi important à ses yeux. C'est comme ça, que ça nous plaise ou non, c'est comme ça. Israël a de l'importance aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est eux qui portent la promesse. Et qu'ils l'ont portée pendant des années et des années, alors qu'autour d'eux, il n'y avait que des païens. Et il faut le faire, il faut tenir bon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on absolue Israël de leur péché? Non, absolument pas. Mais il n'empêche que ce peuple a dû porter une promesse qui était difficile à porter. Et donc son peuple a besoin d'entendre et de se rassasier du pain de Dieu. C'est urgent que son peuple se rassasie de son pain. Et aujourd'hui encore, Israël, là où il est, c'est encore urgent que les Juifs comprennent qui est Jésus. C'est toujours d'actualité. Et donc Jésus a toujours soif que son peuple se tourne vers lui. Alors, le pain des enfants, du coup, c'est quoi? C'est qui? C'est lui. C'est lui. C'est lui, c'est Jésus. Tu viens voir qui? Tu viens me voir moi. Je suis le pain de vie, dit Jean. Ok? Jésus, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est pas quelque chose de matériel. C'est lui. C'est une personne. Le fait d'être en contact avec Jésus va nous nourrir. Ok? Et alors, qui sont les petits chiens? Les petits chiens, c'est qui? C'est qui? Non. N'es-tu pas enfant de Dieu? Voilà, oui, oui. Exactement. Donc aujourd'hui, mais tu devances ce que je veux dire. Tu vas trop vite, merci. Alors, merci. Ce que tu vas dire, c'est hyper, ce que tu dis est hyper important. Je vais te dire moi comment je lis les choses, d'accord? Ça ne veut pas dire forcément que j'ai raison. Et ta position et la mienne peuvent du coup se confronter, et de la confrontation naît la vérité. C'est vrai, non? Alors, du coup, lorsque Jésus, je pense que lorsque Jésus dit pour le jeter au petit chien, il parle d'elle. Il parle d'elle, et elle, c'est une païenne. Elle-même, c'est elle, c'est la syrophénicienne. Ce sont toutes les personnes non converties qui ne croient pas en Jésus. Mais alors, voilà. Il suffit de lire, donc là, encore une fois, notre outil, pour comprendre à quel point Jésus a le droit de lui dire « Mais non, en fait. » Mais en fait, je ne comprends pas. Pourquoi tu viens voir? N'es-tu pas païenne? N'as-tu pas offert un sacrifice à Baal dimanche dernier? Pourquoi tu viens me voir? N'as-tu pas compris qu'il y a complètement une aversion pour ce que tu fais? N'as-tu pas compris que tu ne peux pas à la fois venir me voir et à la fois offrir des sacrifices à Astarté? N'as-tu pas compris que ton culte incompatible avec moi. Tu n'as pas le droit de venir me voir et après d'aller offrir tes sacrifices aux autres. Et pour comprendre cela, il suffit d'aller lire Ézéchiel 6. Un autre outil. Comprendre Jésus, c'est comprendre l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire qu'on reste dans l'Ancien Testament. Ok ? On est passé à une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Mais pour comprendre la position de Jésus, il faut comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et dans Ézéchiel 6, vous pourrez aller voir si vous voulez, vous allez voir comment Dieu exècre l'idolâtrie. Et ce qu'il exècre le plus, c'est quand son peuple tombe dedans. C'est comme une trahison pour lui. Donc il faut comprendre là Jésus, en lui disant, mais il rappelle à la syrophénicienne, mais qui es-tu? Quels sont tes choix? En quoi crois-tu? Où vas-tu mettre ta confiance? Positionne-toi. D'accord? Il demande un choix. Alors c'est peut-être dur, mais c'est vrai. Et Jésus est la vérité. Et donc il va entendre ce qu'elle dit. Et il va lui rappeler qui elle est et les choix aujourd'hui, quelque part. Pourquoi tu viens me voir? Tu ne crois pas en moi? Et tu ne crois pas en mon Père? Et c'est là que c'est vrai, c'est là le beau qui arrive là. Le trouve trop beau, le. Voilà. Moi que j'adore, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait que Jésus finit par accepter sa demande, quelque part? Hein? Si quelqu'un, par exemple, une chose qui est pas acceptée, c'est les gens, par exemple, aujourd'hui, qui font de la voyance. Ils sont à fond dans la voyance. Waouh, waouh, ça marche en plus. Ben ouais, on sait que ça marche. Ok? Et ils viennent là, ils font « prie pour moi ». Non mais attends, tu peux pas à la fois faire la voyance et à la fois demander qu'on prie pour toi. Faut que tu choisisses. Mais l'attitude de cœur de cette syrophénicienne va tout changer. Et ça va tout changer. Et Jésus, du coup, même si elle fait de la voyance, même si ceci, même si elle n'est pas au clair sur plein de choses, il va dire oui. Du coup, qu'est-ce qu'elle répond ? Elle répond, oui, Seigneur. Seigneur. Avez-vous déjà entendu un pharisien dire Seigneur à Jésus ? Non. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. C'est pas beau ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle reconnaît qui elle est. Reconnaître qui on est, c'est la première marque de foi. Et Dieu honore toujours la foi. Elle reconnaît sa faille, elle reconnaît ses faiblesses, elle reconnaît ses origines, elle reconnaît là où elle en est, et elle sait très bien, oui c'est vrai, je suis un petit chien, oui c'est vrai, je vais faire des cultes à balles, oui c'est vrai, tout ce que tu dis, oui je fais de la voyance, oui je fais le pendule, oui c'est vrai, je fais tout ça. Je sais que je suis liée, je sais que je suis nulle, je sais que je suis un petit chien, je sais. Mais je reconnais en toi. Je reconnais en toi que tu peux guérir ma fille. Il traduit en anglais, vous inquiétez pas. Ouais, you can speak English. No problem. Et donc, le fait qu'elle reconnaisse qu'en effet, elle n'est pas pure. Hein. Bah non, elle n'est pas du tout. Mais elle reconnaît que lui l'est. Et qui peut guérir sa fille. Et ça, c'est la foi. Et Dieu honore toujours la foi, même si tu n'es vraiment pas pur. Alors, est-ce qu'ici on peut voir une grande profession de foi ? Parce que c'est quelque part une profession de foi qu'elle fait, aussi toute petite qu'elle est, elle n'est vraiment pas énorme. Hein. Mais il y a une forme de profession de foi dans ce qu'elle dit. Est-ce que c'est une grande profession de foi comme Pierre qui dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie ?» Ben non, rien à voir, rien à voir. Est-ce qu'elle fait une grande profession de foi qui dit « Je te fais Seigneur et Sauveur ?» Elle dit déjà « Seigneur ». Mais qu'est-ce qu'elle met derrière tout ça ? Seul Jésus sait. Ce qu'il y a dans son cœur. Ok ? Et donc, du coup, elle ne fait pas une « Dieu, Seigneur, tu mets son verre. » Non, elle, non, non. Et pourtant, Jésus reconnaît dans son attitude et dans ce qu'elle dit une toute petite profession de foi. Et il va l'honorer. Parce que de ces toutes petites professions de foi, de ces toutes petites envies, de ces toutes petites envies d'approcher Jésus, ça peut être les prémices d'une grande foi. Alors, on pourrait très bien se dire, « Oh, il y avait de la manipulation. Baal, ça n'a pas marché. Astarté, ça n'a pas marché. Bon, » je dis, bon, « Jésus, peut-être que ça va marcher. Hein. Olé. Vous croyez franchement que Dieu aurait honoré ça ? » Non. On ne sait pas, mais on connaît Dieu. Et on sait que Dieu voit les cœurs. Donc si manipulation il y a, je ne crois pas que Dieu aurait dit oui. C'est ma position en tout cas. Moi je crois que Dieu voit les cœurs. Une quoi ? J'en viens. Tu veux venir prêcher avec moi ? Oui, il y a une question d'humilité. Et c'est ça, est-ce qu'on est dans l'humilité ou est-ce qu'on est dans l'humiliation ? Non, on n'est pas dans l'humiliation, ça sera ma conclusion. On est dans l'humilité de cœur. Et aussi pourquoi il faut aussi, Jésus connaît chacun d'entre nous. Donc il connaît notre histoire, on est bien d'accord. Elle, elle n'y connaît rien. Elle, Est-ce qu'elle a été à la synagogue? Est-ce qu'elle a entendu les histoires de Dieu? Est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé avec Moïse? Est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé avec Jacob, avec Rebecca? Ben non, elle ne connaît strictement rien. Et donc, du coup, elle a juste entendu parler d'un homme qui guérit. Alors, peut-être qu'elle a entendu des histoires à droite à gauche, ok. Mais je ne pense pas que l'Évangile insisterait tant sur le fait qu'elle soit syrophénicienne pour dire qu'en gros, elle savait l'histoire d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, qui sont les enfants? On en vient. Les enfants, ce sont qui ont fait le choix de suivre Jésus aujourd'hui, qui ont reconnu son sacrifice à la croix. Ok? Donc c'est nous. Nous sommes les enfants. Et ce que dit Hébreux 4, 16, il dit « Approchons-nous avec assurance vers le trône de la grâce. » On peut y aller. Nous ne sommes pas des petits chiens. Nous ne le sommes plus. C'est une bonne nouvelle. On peut y aller avec grâce. N'ayons plus peur. Trône de la grâce. Et qui sont aujourd'hui nos syrophéniciens? Nos syrophéniciennes? Il n'y en a plus aujourd'hui? Oh si, il y en a plein. Plein. Et ils sont certainement autour de nous. Ce sont des personnes non converties, avérées. Aucune profession de foi. Avérées, quand je veux dire, là, je confesse que Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, ok. Mais qu'est-ce qui va faire d'eux des syrophéniciens, telle qu'elle elle est, hein? Parce qu'il y a des syrophéniciennes qui, syrophéniciens qui s'en foutent, hein, de Jésus, hein, soyons bien clairs. C'est ces petites attitudes qui montrent la foi. Ces petites reconnaissances qui disent, ben oui, c'est vrai, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait ma profession de foi. Mais je suis là. Et je m'intéresse à toi. Et je m'intéresse à ta foi. Et je veux que tu pries pour moi. Et ils sont toujours là. Ils sont autour de nous. Et on doit les reconnaître. Si Jésus s'est laissé toucher par cette femme, alors que franchement, elle n'était vraiment pas un exemple, alors nous devons être accessibles aux gens qui sont autour de nous et qui ne sont pas encore top. Et qui n'ont pas encore fait une super profession de foi à la pierre. Parce que nous devons discerner, comme Jésus l'a fait, la foi qui est en eux et leur laisser le temps. Et de dire, sur ce que tu dis là, sur ce que tu fais là, sur ta manière d'être là, ta prière sera exaucée. Alors, je pense sincèrement que Dieu nous demande de reconnaître ces démarches d'humilité que les gens ont autour de nous. C'est peut-être pas encore des chrétiens, mais leur manière d'être humble et de reconnaître notre foi, eh ben c'est beau. C'est beau. C'est très beau. Alors moi je me dis, mais pourquoi en fait elle a été attirée, cette femme? Qu'est-ce qui fait qu'au final elle a été attirée, cette femme? C'est incompréhensible. Et alors, je pense que Dieu m'inspire une réponse. Je dis bien, je pense que Dieu me dit, d'accord? Si Dieu vous dit, ben alors il n'y a plus de dialogue. Hein. Je pense que Dieu me dit. C'est totalement différent. Moi je bosse pour le Top Chrétien. Je vous invite à aller voir le Top Chrétien, c'est très bien. Et il y a bientôt une formation qui sortira, qui s'appelle La puissance de la grâce, et qui a été faite par Keith Butler, qui est un pasteur des États-Unis. Et donc j'ai dû regarder toutes les vidéos pour filtrer et voir si c'est ok qu'on puisse le diffuser sur le Top Chrétien. Je remercie le Top Chrétien de la confiance qu'il me donne. Et Il parle de la grâce. Et je pense que c'est la grâce qui a attiré cette femme. Alors, Keith Butler, il commence par dire, on a tous une définition de la grâce, et la plupart, c'est quoi ? Souvent, ce qu'on dit, la grâce, c'est... Vous savez pas ? C'est quoi ? Alors, ouais, mais la plupart du temps, on entend autre chose. Une faveur imméritée. La grâce, c'est le fait qu'on a une faveur imméritée. Alors oui, cette syrophénicienne bénéficie d'une faveur imméritée. Sa fille est guérie, et pourtant, est-ce qu'elle mérite, de par qui elle est, recevoir cette faveur ? Non, pas du tout. Et Jésus n'oublie pas de lui rappeler. Tu ne mérites pas. Et en plus, tu n'es même pas juif. Alors, bon. Mais cela dit, la grâce. Et c'est important de comprendre que Jésus est la grâce. On va aller voir un petit peu et après le message est terminé. Vas-y. Tuc, 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 tuc. La grâce. En acte 20-24. Alors là, je vous le dis, hein, je ne fais que dire ce que dit Keith Butler. Avant, non, c'est le fruit de ma réflexion. Après, c'est ce que Keith Butler dit. Et c'est important que je sois honnête avec vous jusqu'au bout. En acte 20-24, en fait, c'est le contexte. Je vais faire ce que je vous ai dit. Le contexte, c'est que Paul dit, franchement, c'est dur. Il s'en prend plein les mirettes. Mais alors plein. De tous les sens, il se fait battre, il se fait taper dessus, il se fait emprisonner. Franchement, c'est dur. Mais il dit, surtout, qu'il endure tout ça. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, nous devons, nous, chrétiens, annoncer l'évangile de la grâce. Mais pour qu'on puisse annoncer l'évangile de la grâce, il faut qu'on ait pleinement accueilli dans notre cœur ce que ça veut dire. Et c'est beaucoup plus qu'une faveur imméritée. C'est le message de Keith Butler. Et au plus je l'écoutais, je me disais, il a raison. Et alors, il est clair que nous, une fois qu'on fait la décision de suivre Jésus, de le déclarer comme notre sauveur et notre Seigneur, alors là, ça explose, quoi. Et la grâce, elle est là, et on peut y aller. Et en plus, baptisé du Saint-Esprit, plus rien qui nous arrête. Donc notre bonne nouvelle, c'est d'annoncer la grâce. Et elle doit être bien comprise. La grâce, c'est beaucoup de choses. La grâce, bien sûr, c'est le fait que Jésus soit mort à la croix et qu'il nous ait sauvés du péché. Ok ? Ça, c'est logique. On est d'accord. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est que la grâce, c'est comme le miel et les abeilles. Vous comprenez ? Le fait que les abeilles sont attirées, ou alors on va dire plutôt les fleurs et les abeilles, parce que les abeilles sont attirées par le fleur pour aller chercher le pollen et créer le miel. D'accord ? Donc c'est plus les fleurs et les abeilles. La fleur, c'est Jésus. Et les abeilles, c'est nous. Mais c'est pas que nous. C'est nos syrophéniciens. Tous nos non-convertis qui sont là. Et qui, d'une manière ou d'une autre, d'une manière qu'on ne comprend pas, la manière dont le Saint-Esprit agit, eh bien, attirer. La grâce est une attirance. Ils ne peuvent même pas dire pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si on demande à la syrophénicienne, on ne sait pas pourquoi. Mais moi, personnellement, je suis convaincue que c'est parce que Jésus attire, par cette grâce qui est, cet amour qui transperce, qui est prêt à mourir sur une croix. C'est énorme la grâce. C'est énorme et c'est ça que nous devons annoncer. Et nous devons accepter que la grâce attire les voyantes, les diseuses de bonnes aventures, les ceci, les ceci, tous ceux que nous considérons comme impurs. Vas-y. En Hébreu 4:16, j'ai dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. Nous avons un Dieu compatissant. Et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Il faut comprendre que la grâce est une aide. La grâce va nous aider. Et elle ne va pas aider que les chrétiens. Elle va aider aussi les non-chrétiens. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que Jésus se révèle aux gens. Et à un moment donné, ils vont dire, ah mais c'est Jésus en fait qui m'a aidé. C'est cette grâce qui m'a aidé. Mais alors ce qui est beaucoup plus beau, c'est quand on va, alors 6e, 7e ou 8e outil, c'est la traduction du texte. C'est hyper important. Vous devez aller voir les mots en grec. Pour cela, vous allez sur Top Chrétien, vous allez dans Bible, vous cliquez sur un verset, et à droite, vous allez voir les traductions qui vont se mettre en route. Et donc, moi, je suis allée voir ce que ça veut dire être secouru. Enfin, Chris Butler a dit ce que ça a voulu dire, mais moi, je voulais vérifier qu'ils ne disent pas des bêtises. OK ? Alors, mon Top Chrétien, on ne le voit pas. Mais donc, j'ai tapé sur Internet, et en effet, ce qu'il dit est vrai. Être secouru, c'est le mot boetheia, du grec. Voilà, boetheia, qui veut dire amarrer un bateau. Et il explique qu'en fait, que lorsqu'un bateau est battu par les vagues, il ne peut pas aller au port. D'accord ? Et il est comme ça. Et les vagues le rejettent tout le temps. Et il y a du rejet, et du rejet, et du rejet, et du rejet. D'accord ? La seule chose qui va pouvoir faire amarrer le bateau, c'est quoi ? C'est qu'on prend la corde et flou, on va le lancer et la personne sur le rivage va le prendre et va tirer. Alors, ils vont peut-être être 10, hein, je ne sais pas. Mais ils vont attirer le bateau. OK ? On voit l'image. Voilà. Moi, j'ai pris un petit bateau. OK ? Boetheia. Profondeur du texte. Jésus. C'est l'homme sur le rivage. Sa grâce, c'est la corde. Et les êtres humains sont le bateau. OK ? Il est très important que nous, chrétiens, nous devions discerner quelles sont les cordes que Dieu utilise pour attirer les Syrophéniciens à nous, l'Église. J'aborde la conclusion. Si je dois résumer mon message, la première chose c'est j'espère que je vous ai donné le goût de l'étude biblique, de comprendre à quel point vous pouvez étudier avec le contexte, étudier avec les concordances, étudier avec les textes qui entourent un texte à travers la traduction en grec ou en hébreu, à travers toutes ces petites choses que j'ai essayé de vous donner pour qu'on puisse être solide dans la foi. Même le nu qui disait « j'ai besoin d'un guide ». On a tous besoin d'être enseignés d'une manière objective et scientifique. Et spirituel. La deuxième chose que j'aimerais bien vous garder, c'est que nous devons discerner ensemble. Discerne autour de toi qui sont tes Syrophéniciens. Lâche pas la corde. Donne la corde. Sois généreux comme Jésus l'a été. Discerne son cœur. Si le cœur rejette Jésus, s'en fout, laisse tomber, secoue la poussière, tuk tuk. Mais si le cœur est intéressé, si le cœur est là et demande à en savoir plus sur Jésus, il ne sait pas, il bredouille, il ne sait pas, il est comme ça, il tire les cartes encore. Oh, oh. Donne ta corde. Transpire la grâce. Ne lui dis pas, bah, quand tu arrêteras ça, tu viendras, hein. Parce que, vous savez quoi ? Les miettes que vous donnerez, Parce qu'on sait bien que les miettes, elles viennent des enfants. Hein. Les enfants mangent, et il y a des miettes. Les miettes que vous donnerez. Et puissance. Très grande puissance. Puissance. Donnez vos miettes. Ne les retenez pas. Et acceptez qu'ils viennent manger. Jésus va toujours se laisser approcher par un cœur qui est humble, un cœur qui reconnaît là où il en est aujourd'hui. Et il va toujours honorer la foi. Est-ce qu'il va honorer la peur ? Je suis désolée de vous dire ça, mais l'évangile de la grâce, pour nous, nous dit bien qu'il faut marcher par la foi et non par la peur. Et je vois encore trop de peur dans les églises, malheureusement. Et en moi, je vous rassure. Et voilà. Si Jésus a fait grâce, nous aussi, nous devons faire grâce. Et nous devons transpirer cette grâce. Ne nous comportons pas à la manière des pharisiens qui ont peur et qui disent « la tradition, c'est comme ça ». Et si on balaye la tradition, eh ben alors c'est qu'on n'est pas dans les clous, hein. Non. Le cœur, fais comme Jésus, discerne tes syrophéniciens qui en valent la peine. Ok. Alors si vous trouvez que ce que j'ai dit porte sens, si vous trouvez que ce que je vous ai apporté est vrai, et que ça transpire la grâce, justement, alors vous pouvez prier avec moi. Et si vous ne le sentez pas, ne faites pas semblant. Ça ne sert à rien. Seigneur Jésus, j'espère que je t'ai honoré en venant dire ce message. J'espère que vraiment ce message touchera le cœur des gens qui m'ont écouté et qu'ils accepteront de transpirer la grâce, de donner les miettes pour que ces syrophéniciens, pour que ces non-convertis, ces gens qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore fait leur choix, puissent être attirés par toi. Et que des gens soient attirés et attirés dans nos églises. Et qu'il y ait plein de syrophéniciens dans notre église qui, un jour, par ces petits pas de foi, pourront déclarer une grande foi. Père, que cette église soit la corde qui attire, que nous attirons et que nous professons et que nous annonçons l'évangile de la grâce ici et non l'évangile du pharisianisme. Seigneur Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur, ça c'est sûr. Maintenant que notre amour porte du fruit, le fruit de ta grâce. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces ?